Vous écoutez RTL.
Passez une très belle journée à l'écoute de la première radio de France, RTL, il est 9h.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Nicole Kidman, Diane Kruger, Sofia Coppola et le film français 120 battements par minute au palmarès du 70e Festival de Cannes. On détaille tout cela dans un instant avec nos envoyés très spéciaux Stéphane Boutsock et Anthony Martin. Et rendez-vous au 3210 puisque nous vous offrirons des exemplaires d'un très bel album photo, La Grande Histoire du Festival de Cannes. Nous rendrons hommage, bien entendu, avec Laurent Marsic au comédien Jean-Marc Thibault, décédé hier à l'âge de 93 ans. Et nous jetterons un œil sur les programmes de la télévision ce soir, avec Isabelle Morini-Bosque, en particulier La Nuit des Molières sur France 2. Et puis quand un chanteur devient Goncourt, sous son nom de famille, Raphaël Haroche, Raphaël est le lauréat 2017 du Goncourt de la Nouvelle pour son recueil « Retourner à la mer ». Bernard Lehu l'a rencontré.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter. Le Festival de Cannes 2017
sur RTL.
Le cinéma, cet art qui a la faculté de nous extraire de la réalité pour mieux nous y replonger. Et grâce au Festival de Cannes, des grands cinéastes ont pu révéler leur talent et leur rapport au monde. Fellini, Scorsese, Coppola, Kusturica, Lynch, Tarantino, Kassovitz, Benigni, Audiard, Dolan et tant d'autres. Place au palmarès.
Direction Cannes, donc sans attendre. Le 70e festival s'est achevé hier soir au cours d'une cérémonie de clôture présentée par Monica Bellucci, qui avait vraiment l'air de souffrir. Qui, on vient de l'entendre, a rendu hommage à quelques grands noms du 7e art. Anthony Martin et Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. On va largement revenir sur les lauréats de cette édition 2017. Mais d'abord, Stéphane, un sentiment global sur la couleur du palmarès.
Je vous dirais palmarès fidèle à ce millésime, c'est-à-dire solide, mais grave, sans emballement véritable, mis à part le film 120 battements par minute qui a reçu le Grand Prix. On va y revenir. Mm-hmm. La Palme d'Or donc récompense The Square du suédois Östlund, fable cruelle, ironique sur le milieu de l'art contemporain. Très honnêtement, je ne l'aurais point vu aussi haut dans le palmarès. Le film russe Faute d'amour, on vous en avait parlé, s'est vu remettre le prix mérité du jury. Implacable chronique familiale du désamour. Le prix du scénario a été remis ex aequo à Mise à mort du cerf sacré du grec Yorgos Lanthimos, très très bien, et à l'écossaise Lynn Ramsay pour You Were Never Really Here, très violent thriller avec Joaquin Phoenix, par ailleurs vainqueur du prix d'interprétation masculine, et c'est Diane Kruger qui a reçu de manière indiscutable le prix féminin pour In the Fade de l'Allemand Fatih Akin.
Alors nous allons bien entendu entendre les lauréats dans un instant, mais avant cela, revenons Anthony Martin sur la récompense surprise attribuée à Nicole Kidman.
Oui, l'actrice australo-américaine fut la reine de Cannes cette année avec 3 films, dont 2 en compétition et une série aussi, signée Jane Campion. Nicole Kidman, oscarisée en 2003 pour le film The Hours, n'avait jamais reçu de récompense en France. La voilà donc lauréate d'un prix spécial 70e anniversaire. La star n'était pas présente hier pour recevoir son trophée, déjà repartie aux États-Unis à Nashville, d'où elle a envoyé ce message.
Merci du fond du cœur de me faire cet honneur pour mon film, mon travail. Et je me sens bénie de faire ce travail. Je suis extrêmement reconnaissante à Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Jane Campion, tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé et qui ont cru en moi. Et je veux également remercier le festival et merci de m'avoir incluse dans cette histoire depuis tant d'années. Regardez donc l'anniversaire, le 70e anniversaire l'autre soir, c'était incroyable, voir toutes ces légendes. C'était la fête du cinéma et des histoires. Donc pouvoir faire partie de cela, je vous en suis très reconnaissante. Et je suis tellement triste de ne pas pouvoir être avec vous. Mais bon, c'est ainsi. Et là, je suis avec ma famille.
Je t'aime. Merci beaucoup.
Merci Nicole. Alors, honorée hier soir donc à Cannes, Nicole Kidman, tout comme Diane Kruger, visage familier du cinéma français, Stéphane, l'actrice allemande a donc remporté le prix d'interprétation féminine.
Oui, elle incarne Katia, épouse et mère de famille allemande dont le mari d'origine turque et le fils vont périr dans un attentat perpétré par des néo-nazis. Le film s'appelle donc In the Fade. Mm-hmm. Katia fait d'abord confiance à la justice, mais la décision du tribunal va la pousser à décider de se venger elle-même. Jusqu'où ? Comment ? Les réponses sont au cœur de ce film rude, mais très bouleversant. J'ai rencontré Diane Kruger hier soir. Je lui ai d'abord demandé de me parler de cet instant où Pedro Almodovar, le président du jury, a prononcé son nom.
Vous savez, c'est un moment un peu surréaliste en fait. C'est mon cœur qui commençait à battre très fort. Je tremblais pour aller sur scène et c'est un moment à part dans une vie, c'est bizarre.
À vous entendre parler du film depuis que vous l'avez présenté ici, j'ai l'impression que c'est un de ces rôles qui croisent la carrière d'une actrice et que ce ne sont pas des rôles que l'on reçoit souvent.
Oui, mais si vous avez la chance en tant qu'actrice de ce genre de rôle, vous êtes proposé 2-3 fois dans une vie, si vous avez de la chance. Donc je suis bien consciente que c'est un rôle qui restera dans ma carrière. En tout cas, il est hyper important pour moi. Je suis très attachée parce que c'est Fatih qui m'a choisie. Il a vu en moi quelque chose que vraiment j'ignorais presque de moi-même. Il m'a libérée aussi de certaines choses. Ça m'a changé.
Vous avez rencontré, pour préparer ce personnage et ce film, des personnes qui ont réellement souffert d'attentats ou de violences. Ça a été un moment marquant de la préparation ?
Oui. Je crois que c'est à partir de là que j'ai compris aussi la responsabilité que je porte sur ce genre de personnage et que je ne pouvais pas faire des choses à la moitié. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, des rencontres, les regards, les histoires. C'est comme une énergie qui vous envahit et que vous sentez chaude sur vous. Et je le sens encore, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué pour la vie.
Demain, est-ce que ce prix-là, cette soirée que vous venez de vivre, ça va changer des choses à votre avis ? Pour vous et pour les autres ?
Ça a déjà changé des choses dans ma tête, dans ma vie, vraiment. Donc, tout ce qui va se passer après, c'est génial, c'est en plus. Mais je sais que ça m'a changé, ça m'a libéré. Je sais que le meilleur est à venir.
In the Fade, donc, avec Diane Kruger, sortira en salle en janvier prochain. Chez les hommes, on l'a dit, c'est donc Joaquin Phoenix qui s'impose dans un rôle de tueur impitoyable, ex-marine, au service de riches et puissants employeurs. Pour faire le sale boulot, il va mettre les pieds dans un épouvantable réseau pédophile, laisser libre cours à sa violence. Première récompense d'envergure, assez incroyable d'ailleurs, pour l'acteur fétiche de James Gray, qu'on a vu aussi dans Gladiator il y a quelques années. Joaquin Phoenix, à bout des... formidable comédien. Là, il en fait un petit peu beaucoup, très honnêtement, mais bon, oui. Lui, quand même assez intense. Joaquin Phoenix qui a d'ailleurs boudé les micros à l'issue de la cérémonie. Voici donc ce qu'il disait en recevant son prix sur scène, chaussé non pas des mocassins réglementaires, mais de baskets.
Wow, thank you so much.
Je ne peux dire que merci. Ce prix est tout à fait inattendu.
Oui,
vous voyez, mes chaussures ne sont pas de circonstances. J'ai renvoyé mes souliers vernis. Toujours est-il que je suis sans voix. Un immense merci pour ce prix. Et tout ce que j'ai pu faire était lié complètement à l'œuvre de Lynn Ramsey. Un grand merci.
Et pas de date de sortie encore pour le film de Lynn Ramsey en France avec Joaquin Phoenix.
Alors, côté français, un seul vainqueur sur 4 possibles. Mm-hmm. C'est 120 battements par minute, un film de Robin Campillo. C'est le grand prix de ce 70e festival.
Ouais, je suis ravi parce que c'était mon gros coup de cœur pour cette édition 2017. La chronique bouleversante et rude du quotidien engagé et amoureux de militants de l'association ACT UP dans les années 90. Face à l'épidémie de sida et aussi à l'indifférence, homo, toxico, hémophile, beaucoup sont tombés et continuent de tomber d'ailleurs. Robin Campillo a fait ce film pour ceux qui sont partis, nous a-t-il dit, mais aussi pour ceux qui restent, confrontés à un autre fléau.
Je dois dire que l'homophobie, en fait, n'a jamais disparu. Nous, on avait une chose à ACT UP, c'est qu'on avait tellement subi les 10 ans du début de l'épidémie comme des victimes, et on était les gentils gays qui mouraient du sida, etc., et que ça nous insupportait, et que d'un seul coup, on a décidé d'être des méchants pédés, et d'un seul coup, d'être plus agressifs, et de faire passer un peu des messages beaucoup plus durs. Et c'est vrai que la société, sans doute, c'est un peu ouverte, etc., mais à partir du moment où c'est visibilisé, qu'on est devenu plus visible, d'un seul coup, il y a d'autres formes de haine qui sont sorties. Il y a une forme d'homophobie encore plus violente. Effectivement, quand on pense à ce qui se passe en Tchétchénie, où il faut quand même imaginer que les gens sont torturés, tués, mais qu'on propose quand même aux familles d'exterminer leurs propres enfants, leurs propres frères, etc. C'est quand même un tour particulier dans l'horreur, quoi. Donc c'est vrai que, attention, en fait, ça n'arrête pas de revenir, cette chose-là.
120 battements par minute, ça sera le premier événement de la rentrée du cinéma, puisque le film sort en salle le 23 août prochain.
Dans la foulée de la cérémonie, Anthony, vous avez suivi le jury qui s'est expliqué sur son palmarès.
Oui, avec un moment fort, les sanglots, dans la voix de Pedro Almodovar, le président de ce jury 2017, lorsqu'il a précisément parlé du film français de Robin Campillo, 120 battements par minute.
I loved the movie.
J'ai adoré le film, je ne peux pas l'aimer plus. J'ai été très touché du début à la fin et même après. Mais le jury a fonctionné de façon très démocratique. Je ne suis qu'un neuvième du groupe. La majorité écrasante d'entre nous a aimé le film de Romain Campillo. Je suis sûr qu'il va attirer du monde un peu partout, c'est certain. Et je suis sûr qu'on se souviendra de ce qui s'est passé dans ce pays il n'y a pas si longtemps. Que l'on soit attaché à la cause LGBT comme moi ou pas, c'est un film qui rend justice à... Campillo raconte l'histoire de vrais héros qui ont sauvé de nombreuses vies. On était tous d'accord avec ça.
L'émotion de Pedro Almodovar. Pedro Almodovar a par ailleurs expliqué que les échanges au sein du jury avaient été très respectueux, que les neuf jurés n'avaient pas forcément eu la même vision des différentes catégories. Pas de sang, a dit le président, mais de la passion et de l'enthousiasme. On sait qu'Agnès Jaoui a fermement défendu par exemple le film suédois The Square, qui est Palme d'Or. On sait que Will Smith, lui, s'est battu en vain pour le film hongrois Jupiter's Moon, qui n'a rien reçu. Donc ça a dû être animé quand même. Will Smith, qui a animé, lui, de son côté, ce festival à chacune de ses apparitions. Un show permanent. Écoutez-le par exemple après la révélation du palmarès, il n'a pas pu s'empêcher.
J'ai dû dire à Pedro, arrête de réclamer des faveurs sexuelles en échange de mon vote. Mais en dehors de tout ça, tout a été facile et intelligent.
Voilà, c'était du Will Smith, il a fait ça toute la semaine. À côté la jurée, Jessica Chastain, en bonne américaine, bien prude, a tout de suite précisé, mais c'est une blague, hein, c'est une blague. Hein. C'était très drôle.
C'était nécessaire, si je comprends bien. Voilà. Alors, pour saluer une dernière fois cette 70e édition du Festival de Cannes, nous vous offrons ce matin des exemplaires d'un superbe ouvrage édité par l'Archipel, La grande histoire du Festival de Cannes, préfacé par Monica Bellucci, avec toutes les infos, les photos, les anecdotes des années 40 à nos jours. Et pour gagner, il faut répondre à la question que vous posez immédiatement, Stéphane.
Quelle actrice allemande a reçu le prix d'interprétation féminine hier soir. Elle parle français, je vous le dis.
Réponse au 32-10.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Nous l'avons donc appris hier soir, la disparition de l'acteur Jean-Marc Thibault à l'âge de 93 ans, son fils Alexandre qui a annoncé la triste nouvelle sur le réseau social Twitter. Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Le nom de Jean-Marc Thibault est évidemment à jamais indissociable d'un autre, celui de Roger Pierre.
Oui, ils ont formé tous les deux un des duos d'humoristes les plus célèbres du XXe siècle. Les deux hommes se rencontrent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici, au 22 rue Bayard, dans les studios de celle qui s'appelle encore Radio Luxembourg et qui deviendra plus tard RTL. Avec Roger Pierre, Jean-Marc Thibault va écumer avec succès les scènes des cabarets, dont celui-ci, leur premier. Ce matin, Lina.fr a mis en ligne sur son site un extrait de cette mémorable interview, l'un par l'autre, dans l'émission Double Juste en 1992. Les deux acteurs se souvenaient de cette première scène en 1946.
Je me souviens de l'amiral, les débuts de l'amiral.
Oh là là.
D'abord le patron, monsieur Mel, qui est venu nous voir trois fois au tabou, assis à une table tout seul devant un cognac, et qui ne riait pas.
Ouais.
J'ai fait, messieurs, j'aurais vous parler. Écoutez, je vois votre numéro, ça fait trois fois que je viens, trois fois que je ne ris pas, je ne comprends rien, mais autour de moi, les gens s'amusent. Je vous engage dans mon cabaret, l'amiral.
Tu te souviens? Oh là là,
il y avait 12 entraîneuses. Oui. Il y avait 12 entraîneuses dans la salle. C'était notre premier public.
Premier public, c'était des putes, quoi, pour vous dire.
Et parmi les sketchs célèbres, eh bien celui-ci, baptisé Nord-Sud, discussion entre deux soldats américains, un sudiste et un nordiste.
Alors dites-moi, mon cher prisonnier sudiste,
c'est commencé.
J'ai l'impression que pour vous, la guerre de sécession a cessé, c'est sûr.
Oh, mais je vais lui répondre.
Ça, c'est sûr. Mais...
La télé va très vite les repérer et même leur offrir des émissions dans lesquelles la France entière découvre leurs talents et se plie en deux de rire avec eux. Le tout Paris du théâtre et du cinéma y défile. Le cinéma, justement, 5 films avec Roger Pierre, des comédies. En 1975, le duo se sépare pour mieux se reformer 9 ans plus tard. Et parallèlement, Jean-Marc Thibault poursuit sa carrière à la télé. L'acteur va former, dès 1985, un des couples les plus célèbres du petit écran avec Rosy Vart.
Elle voit souvent rouge avec
C'est la première sitcom à la française. C'est Maggie chaque dimanche soir sur Antenne 2.
Je me fous de tes ordres.
Je m'occupe de ta carrière.
Eh ben occupe-toi de la tienne.
Le duo devient très vite un trio à succès grâce à Marthe Villalonga, la bonne.
Bien ma Maggie. Voilà. Oh, peut-être pas autant.
Avec plus de 70 films cinéma, presque autant de téléfilms à son actif, Jean-Marc Thibault a enchaîné les tournages tout au long de sa vie. Il était marié à l'actrice Sofia Gassinski, la belle-sœur de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Et son fils, leur fils Alexandre, qui nous a appris hier cette triste nouvelle, marche dans les pas de son père puisqu'il est acteur et il est le formidable Julien dans Une famille formidable. Il tourne en ce moment au Portugal. Ouais.
Merci beaucoup pour cet hommage à Jean-Marc Thibault qui nous a pendant des années tellement fait rire, notamment avec son ami Roger Pierre. On va passer maintenant à nos audiences télévisées. télévisée du week-end avec Médiamétrie et avec vous, Isabelle Morini-Bosque.
Oui, et bien d'abord, temps splendide, donc plus d'écran total que d'écran de télé. Koh-Lanta en tête vendredi attire moins de 4 800 000 téléspectateurs devant Candice Renoir, brillante deuxième avec 4 100 000 fidèles, fin de saison. Samedi, l'équilibre là aussi est respecté. 4 millions de fanas sont devant The Voice, la une. 3 700 000 devant Meurtre à Strasbourg. Le polar de la 3 devance le football. Moins de 3 500 000 personnes sont devant la 2 et le match en GPSG. Quant à hier, Equalizer, TF1 encore, TF1 d'abord, devance l'inspecteur Barnaby. Sur la 3, 5 600 000 contre 2 600 000, c'est tout ce que j'ai à dire.
Vous aimez bien Barnaby, hein?
Ah, j'adore, j'avoue.
Une petite faiblesse pour Barnaby.
Moi, la campagne anglaise, j'adore.
Alors ce soir, bah, écoutez, après le cinéma, le théâtre, hein, l'événement du jour, c'est la 29e soirée des Molières sur France 2.
Oui, et même la 29e nuit des Molières, puisqu'elle commence à 22h50 jusqu'au bout de la nuit. On n'espère pas de l'ennui. Elle permet de distinguer les artistes et les spectacles les plus remarqués sur scène cette année, on le sait. Elle suivra la diffusion de Fleurs de Cactus, une pièce de 63 signée Barrier et Grédy, nommée 6 fois en 2016 et proposée en direct du théâtre Antoine. L'histoire, ben, Michel Faux, dentiste, s'invente une épouse pour tenir sa maîtresse à distance, sauf que la maîtresse veut rencontrer l'épouse. Il propose du coup à son assistante Catherine Fraud, moliérisée l'an dernier pour le rôle, de devenir son épouse éphémère.
On verra comment vous vous débrouillerez tout seul.
Se croyant implaçable. Tout ça parce qu'elle me fait des sandwichs au poulet.
Et vos déclarations fiscales, qui se chargera de les truquer? Ah, ils changent de couleur.
J'ai jamais vraiment joué de vaudeville, moi. C'est la première fois. J'ai jamais joué Fédo, par exemple. Maintenant, je trouve que cette pièce en soi, elle est quand même plus pour les femmes que pour les hommes. Les hommes, ils s'en prennent plein la figure.
Et c'est le contraire des pièces de Guitry ou de Fédo. C'est inversé. C'est vrai que c'est très drôle, ça.
Un homme n'est jamais ridicule en compagnie d'une femme plus jeune que lui.
Ce sont les hommes qui le disent.
Voilà. La nuit est ensuite une nouvelle fois présentée. La nuit des Molières, une nouvelle fois présentée par Nicolas Bedos, qui honnêtement a su rendre la soirée plus attachante, plus mouvementée, notamment avec de véritables sketchs qui fait jouer. Souvenez-vous, en 2014, celui-ci avec Florence Foresti qui déclame du classique à la Foresti, bien sûr.
C'est Dieu qui dans mon flanc. C'est où le flanc?
C'est là, je pense.
Ah, dans mon flanc, je le savais. Ont allumé le feu fatal à tout mon sang. C'est Dieu qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Oh, oh, toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. Bah, rappelle-le. Ah, y est ? Eh ben, c'est peu de t'avoir fui, cruelle. Je t'ai chassée, j'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine, voilà, pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. Bon, tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. Oh, j'ai langui, j'ai séché dans les feux, dans les larmes. Même si dans tes danses, notre danse des... Ah non, ça c'est Céline Dion.
Bravo.
Hey, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour récupérer un Molière?
Voilà, ça reste quand même une cérémonie plum pudding, très longue, très lente, très revendicative souvent. Mais franchement, avec Nicolas Bedos, c'est, tu sais que c'est pas mon meilleur ami, c'est nettement plus vivant.
Et une petite tasse de thé avec le plum pudding, bien
absolument
entendu.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
9h21, Bernard Lehu. Bonjour.
Oui. Bonjour.
Raphaël, le chanteur que l'on connaît bien, s'est également mis à l'écriture de nouvelles sous son nom complet à l'état civil. Raphaël avec un tréma sur le E, oui, et son patronyme Haroche. Une diversification artistique couronnée de succès.
Et comment Raphaël Haroche a décroché avec Retourner à la mer, hein, c'est le titre de son livre, le Goncourt de la Nouvelle 2017. Un prix qu'il a reçu chez Drouan, le célèbre restaurant des Goncourt, des mains de Bernard Pivot.
Oui, je suis très très un peu sidéré encore. Pendant 3 jours, le seul truc que j'arrivais à dire, c'était la vache. Oh là là, la vache. Ce qui était bon, voilà. Moi, j'avais pris comme j'étais un peu stressé, on m'avait prévenu que c'était possible, donc on m'avait dit de venir chez Gallimard à midi au cas où. Et comme on n'avait pas la réponse, tout le monde avait l'air anxieux, donc j'ai pris un gin tonic à midi en me disant pour me détendre. Et le pouvoir incroyable de l'alcool au moment où j'ai avalé mon gin tonic, les gens m'ont appelé pour me dire qu'il fallait que j'aille chez Drouan.
Et là, la remise du concours par le jury et son président Bernard Pivot.
J'étais très ému. J'étais un peu voilà, le temps est un peu curieux. On aimerait bien en profiter. En même temps, on est un peu dispersé comme ça. C'était très intéressant. Moi, j'ai parlé beaucoup de souvenirs d'enfance parce que je regardais beaucoup cette émission Apostrophe, ce qui était extraordinaire. Je les avais même re-regardé il y a un an ou deux. J'avais acheté un DVD comme ça avec toute une collection de. C'est des grands moments de télévision.
Donc, alors Raphaël, fan donc de Bernard Pivot, oui. Mais pourquoi lui, qui est déjà le compositeur et l'auteur de ses chansons, s'est-il mis également à l'écriture de nouvelles?
Ben, c'est en effet la question qu'on peut se poser que je lui ai posé la réponse de Raphaël Haroche.
C'est très agréable de faire autre chose, de ne pas faire toujours la même chose, un disque, une tournée, un disque, une tournée. Moi, mon amour premier, c'est vrai que c'est la musique. À 9 ans, si vous m'aviez rencontré, je vous aurais dit, je veux être chanteur. Mais j'ai toujours une culture du livre. Depuis que je suis petit, je lis, je me promène d'une pièce à l'autre avec des bouquins sur moi tout le temps. Il y a quelque chose de sacré dans le livre qui me paraissait presque inatteignable. J'avais jamais vraiment essayé d'écrire. Et puis c'était un été, il y a 2 ans, comme ça. J'étais un peu désœuvré. Je lisais Kafka. Bon, c'est Kafka qui m'a aidé beaucoup, peut-être. Je sais pas, je me suis mis à écrire, peut-être par ennui. Et puis j'ai été assez amusé, intrigué. Et puis je me suis réfugié dans une espèce de fantaisie de chaque minute où on se dit, ah tiens, comme si on préparait un mauvais coup dans son coin. Et puis maintenant, j'ai l'impression d'avoir entrebâillé une porte et je pourrais difficilement m'en passer. En fait, ça change complètement votre rapport même au réel.
Alors, passé sa grande dépression kafkaïenne, que raconte Raphaël dans ses nouvelles et quelle couleur donne-t-il surtout à son livre ?
Eh bien, la tonalité à l'aune de son univers musical est plutôt mélancolique, sur des thèmes graves, la solitude, le couple en crise, la maltraitance animale, le grand âge. Ses personnages sont souvent cabossés, malmenés par la vie, et en même temps, ils restent attachants par leur absence de méchanceté, leur émouvante sincérité et leur tentative de rachat. C'est le cas du dernier des pères, peut-être le plus beau personnage de ce recueil de nouvelles.
J'avais envie de faire une nouvelle avec David Bowie parce que c'est mon héros et puis parce que je voulais essayer de raconter ce qui se passe pendant que les chanteurs chantent. Quelles tragédies peuvent se dérouler pendant qu'il y a une compilation splendide qui passe et après ça dit quelque
chose. Donc là c'est le cas dans la voiture, il faut préciser le contexte, un père et son fils partent en vacances, père divorcé, n'a pas la garde de l'enfant, il le retrouve, ils partent ensemble et ils écoutent Bowie dans la voiture.
Alors il essaie de faire les choses bien et puis il est un peu alcoolique, alors il est un peu angoissé quoi, donc il a envie de boire parce que vraiment il est, sinon il est stressé, il a envie de se sentir bien avec son enfant et donc il boit un petit peu et puis on prévient dès le début qu'il va se passer un accident, que quelque chose va se passer et évidemment l'accident se passe. C'est un accident qui a un lien avec l'eau et ça, je voulais aussi parler un peu du baptême, de ce que c'est que de la paternité par le baptême. C'était ça, il avait été en retard au baptême, il est en retard à la naissance, il a tout raté, et là il a une chance un peu de se racheter.
Eh oui, je ne vois pas comment vous pourrez échapper à une petite larme à la lecture de la magnifique chute de cette nouvelle, Le Dernier des Pères.
Mais aussi de la fantaisie, de l'humour, d'en retourner à la mer, le livre de Raphaël.
Oui, en particulier dans La plus belle fille du monde, où un jeune homme juif cherche à séduire à tout prix une jeune femme à la plastique parfaite. Le soir où elle est enfin disposée à lui céder, où son rêve est enfin à portée, il découvre que la belle est une épouvantable antisémite. Alors, doit-il renoncer pour autant ?
Ah, c'est l'idée, c'est ce qu'on est prêt à accepter par amour. Alors, évidemment, ça ne m'est pas arrivé, mais il y a quelque chose dans la jeunesse qui fait qu'on est prêt à s'ennuyer énormément ou à accepter des trucs pour tirer un coup, quoi. Et donc, je voulais un peu pousser ça et rendre la situation plus burlesque et plus amusante, quoi. Un type très très lâche, quoi, qui s'accommode de propos terribles parce qu'il a envie de passer la nuit avec la fille. Et puis finalement, la culpabilité, le travail quand même. Déjà, ouais. Qu'on est fragile dans ces situations-là, mais alors là, c'est terrible.
Voilà, une histoire qui se terminera en débandade générale, si je puis dire. Le talentueux Raphaël Haroche publie donc Retourner à la mer, le Goncourt de la Nouvelle 2017, et c'est publié chez Gallimard.
Merci beaucoup Bernard Lehu. Alors, quelle actrice allemande a reçu le prix d'interprétation féminine hier soir, s'il vous plaît, messieurs ?
C'est Diane Kruger ?
Ben oui.
Oui.
Oh, c'est agréable d'entendre cette mère qui est avec nous. Et vous avez donc gagné, si vous nous avez appelé au 3210 et répondu Diane Kruger, La grande histoire du Festival de Cannes. Le livre est préfacé par Monica Bellucci avec toutes sortes d'infos, ouais, de photos, d'anecdotes. Hein. C'est un beau bouquin.
Ouais, vraiment.
Hein.
Des années
40 à nos jours.
Absolument.
Les garçons, merci beaucoup pour tout votre travail pendant cette quinzaine que vous nous avez fait vivre. Cette quinzaine qui n'en est pas une d'ailleurs. mais en tout cas, c'était vivant, riche et on était vraiment très heureux de. On est surtout heureux de vous retrouver. Maintenant, il faut rentrer à Paris. Hein.
Ah bon demain matin, on part ce soir et demain matin, on sera là avec vous rue Bayard, avec Valérie Lemercier et Patrick Timsit.
Et oui, moi j'ai vu le film hier soir et je peux vous dire que énormément ri. C'est
très bon
tout à fait charmant. On fait un gros baiser aussi à Philippe Maillet, sans qui rien ne serait possible, si vous m'autorisez cette expression.
Notre réalisateur.
Bon, maintenant, il faut qu'il démonte le studio, à la tronçonneuse, à coups de pelleteuse et tout ça. Et puis, il nous ramène tout avec la camionnette en débris à Paris. Bon. Et surtout, dites-lui de notre part qu'il n'oublie. Oh, on entend une voiture derrière vous. Qu'il n'oublie en aucun câble. Hein, c'est très, très
rien,
important.
Rien, on ramène tout. La moindre bonnette, tout repart.
Bon, vous êtes content de votre quinzaine,
je crois qu'on
bien passé.
On vient vous chercher, là.
C'est notre voiture qui vient nous chercher. Faut qu'on y aille.
Allez, à demain pour Marie-Francine avec Valérie Lemercier et Patrick Timsit. Le film sort mercredi, hein, c'est ça ?
C'est ça. Oui. Il s'arrête vraiment devant votre hôtel. C'est terrible.
Ah bah voilà.
À demain.
On a notre blouse blanche.
Vous êtes
repérés.
Bonne journée les garçons et à demain. Et bonjour à Julien Courbet.
Oh, la leçon. La leçon de radio que je viens de prendre. Pour meubler une minute, mais... Et vous relancez. Sinon, il fait chaud là-bas, vous savez. Et ta mère, ah bah tu sais, elle est en maison de retraite. Bon, ça se passe bien.
Et on vous a mis un petit peu d'ambulance aussi.
Et une ambulance qui passe, des bruits de toilette.
C'était vivant. Comme
vous aviez des bruits de toilette, mais c'est incroyable. Mais est-ce qu'on ne tient pas là une émission? On appellerait ça le néant. Et alors, pendant une heure, on parlerait de rien. On mettrait juste des bruitages, on demanderait aux gens comment ils vont.
Ça doit se domestiquer, le néant.
Oh, c'est fantastique. Vous êtes vraiment le meilleur, Yves. Je l'ai toujours su. Et je le redis ce soir. Bon, tout va bien?
Bah oui, tout va bien.
Allez, ça marche.
On vous retrouve, on vous souhaite une belle émission.
Avec un cas exceptionnel pour démarrer. Bonne journée à vous.
Salut.
Vous écoutez RTL.